Radio Kapi.
C'est ce 5 septembre que les enfants de l'école primaire, secondaire et technique reprennent les cours. Sachez bien que pour le syndicat des enseignants du Congo à Beni, les cours vont effectivement reprendre. Il n'y a donc pas question de grève, information que nous proposons en ouverture de ce journal. Alors qu'ils ont vécu toutes ces années ensemble, mais à cause de l'intolérance ethnique, des Teke et Yaka dans le Kwamout, province de Maïndombe, se déplacent par milliers pour se réfugier maintenant dans la ville de Bandundu. Fait déplorable à suivre dans cette édition. Christophe Boucher, un Français d'une cinquantaine d'années, ancien journaliste et ancien président de l'Olympique de Marseille, est notre invité en fin de ce journal. C'est pour parler des états généraux sur le sport. Il lui est confié la mission d'accompagner le gouvernement congolais pour la mise en application des résolutions de ces états généraux. Vous tous qui faites confiance à Radio Okapi pour votre information, nous vous souhaitons la bienvenue à cette édition de ce soir et bonsoir à toutes et à tous. Présentation de ce journal, Billy Yvan Lutumba. Au Nord Kivu, il n'y aura pas de grève des enseignants à Beni le lundi 5 septembre prochain, jour de la rentrée scolaire sur toute l'étendue du territoire national. Cette annonce a été faite hier jeudi par le syndicat des enseignants du Congo, Sieko Beni. C'était au cours d'une assemblée générale des enseignants membres de ce syndicat. Une assemblée consacrée à la restitution de la réunion de l'intersyndicale des enseignants tenue à Butembo le 26 août dernier sur la rentrée scolaire. C'est ainsi que tous les élèves et enseignants sont appelés à être présents dans leurs écoles respectives le lundi 5 septembre. On écoute à ce sujet Christophe Kanyambwe, secrétaire permanent du Sieko Beni, au micro de André Kitenge.
On avait déjà opté pour la grève pour cette année ici, mais vu l'issue de la rencontre de nos représentants au niveau de Mbouela, avec surtout la feuille des routes, nous avons trouvé que déjà les histoires aspirent quand même, et nous disons aujourd'hui que la rentrée sera apaisée, les enseignants à partir du lundi seront à l'école, et cette feuille des routes constitue pour nous un préavis déjà. Et si le gouvernement ne respecte pas ce qu'il vient encore de signer dans cette feuille des routes, donc à tout moment, nous pouvons suspendre les activités et entrer à grève. Nous avons été représentés à Mbouela et nous ne devons que marcher de l'issue de Mbouela. Nous ne pouvons pas marcher à contre-courant avec nos propres représentants. Ils n'ont pas donné le mot de grève et nous ne pouvons pas aller à grève. Et là, nous appelons tous les enseignants d'être déjà au service dès le lundi et occuper les enfants qui seront là. Nous demandons aux parents de ne pas traîner les enfants à la maison, puisque quand les enfants n'arrivent pas, les jours de l'année scolaire sont comptés. C'est 222 jours. Quand on perd un jour, on perd la matière. C'est comme ça qu'ils nous disent que comme cette fois-ci les enseignants acceptent de retourner à l'école, que les parents ne traînent pas, que les enfants aussi ne traînent pas, tous vont venir déjà le lundi pour démarrer avec la matière.
Nord Kivu, le responsable d'une église de la zone de Katwe dans la chefferie de Bouito en territoire des Rutshuru est aux arrêts depuis hier jeudi à l'auditorat militaire de Goma. Selon un notable de Rutshuru, celui-ci est accusé de complicité dans le détournement d'environ 24 millions de francs congolais destinés à la paye du mois de mai dernier des enseignants des 8 écoles de Kibirizi et de Kishishe. Reportage.
Cette arrestation intervient 4 mois après le détournement du salaire des enseignants des Kibirizi et Kishishe, chefferie de Bouito, par un présumé chef d'établissement de l'une des écoles de la place, et qui reste introuvable jusqu'à ces jours selon nos sources locales. Le même source indique qu'au mois de juin dernier, l'auditorat militaire de Goma a été saisi par les victimes afin de trouver une solution à ces détournements à répétition dans les territoires de Rutshuru. Les 90 enseignants des écoles de la zone, des Kibiziri concernés, n'ont jamais touché leur salaire de mois de mai. Tout en exprimant leur satisfaction à la suite de cette arrestation, ces derniers espèrent qu'une solution sera trouvée à leurs revendications. Sinon, toujours selon nos sources, la rentrée scolaire prévue pour ce lundi sur l'étendue de la chefferie de Bouito ne sera pas effective. Signalons que selon un notable de Bouito, le territoire de Rutshuru a connu 3 cas de détournement de salaire des enseignants. Il demande à la Caritas de procéder à une paie individuelle des enseignants au lieu de le remettre au chef d'établissement.
Nous parlons à présent de cette intolérance ethnique et ses conséquences. La ville de Bandundu, chef-lieu de la province du Kwilu, accueille depuis plus de 3 jours déjà des milliers de déplacés en provenance de la province du Maïndombe. Il s'agit des personnes qui fuient les violences dans leur milieu de vie à la suite du conflit intercommunautaire entre les Teke et les Yaka dans le territoire de Kwamout. Le mouvement des déplacements massifs de ces populations a été constaté jeudi 1er septembre 2022. Notre reporter dans la région, Irène Boma, les a rencontrés au port de Ngandambo, village situé dans la province du Maïndombe, à l'autre rive de la rivière Kwilu, en face de la ville de Bandundu. Suivez plutôt ce reportage.
5 milliers de déplacés qui arrivent à Bandundu, au Kwilu, proviennent de différentes localités et fermes de la province de Maïndombe, précisément celles situées le long et aux environs de la route nationale numéro 17 dans les territoires de Kwamond. Ils disent avoir parcouru de très longues distances à pied pour arriver à leur lieu de refuge. Selon eux, ils ont tout abandonné pour fuir les hostilités liées au conflit sanglant entre les Tékés et les Yaka. Ils exigent la restauration de la paix afin qu'ils puissent retourner dans leur milieu de vie habituel. Nous venons de la ferme Mbouma. Nous sommes venus nous réfugier à Bandundu. Nous avons fui la guerre de Tékés et les Yaka. Nos produits agricoles, nos chèvres, nos poules et vaches sont restés à la ferme. Certains de mes enfants nous ont précédés. D'autres suivent derrière à pied. La famille est à des bandades. Nous voulons que la paix revienne pour que nous puissions retourner. Et le maire de la ville de Bandundu, Ephraim Kinda, qui s'est dit préoccupé, indique ce qui suit.
Nous avons reçu le déplacé. J'ai demandé à mes services de faire une petite collecte. Je n'ai pas le nombre exact parce que depuis avant-hier, hier et aujourd'hui, nous sommes en train de les enregistrer.
Ephraim Kinda appelle la population de Bandundu à pouvoir assister ces déplacés qui sont dépourvus de tout. Irène Boma, Bandunduville, Radio Okapi.
L'ONG La Voix Citoyenne, La Voici en sigle, dénonce ce qu'elle qualifie d'arrestation arbitraire de 6 défenseurs des droits de l'homme, dont un cadre de la société civile et président de l'association culturelle Luanzolo Amikuba. Se confiant en Radio Okapi, cette structure citoyenne affirme que ces personnes ont été arrêtées depuis 2 semaines en Tinké du territoire de Louboudi dans la province du Lualaba par les services de sécurité sans signifier le motif de leur arrestation. On écoute Dieu merci Batsino Ekolé, président national de La Voix Citoyenne, au micro de Grâce Hamzati.
Quand nous prenons par exemple l'article 18 de notre constitution, cet article stipule « Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle, et c'est dans la langue qu'elle comprend. » Donc on l'a pris comme ça, on l'a emballé par les policiers de Soussiat Nteke et on l'a acheminé à Kolwezi. Il a laissé 6 enfants et n'est pas que lui seul. Il a été appréhendé avec 5 autres camarades. On ne peut pas arrêter quelqu'un sans motif. Selon les informations que nous avons recueillies, on a dit qu'ils sont acheminés à Kinshasa sans être auditionnés à Kolwezi. Et nous demandons aux autorités provinciales de Lualaba, commençant par le numéro 1, Madame la gouverneure Fifi, et les responsables de l'ANR, qu'on puisse libérer sans condition notre camarade Mouseka Wamouseka Siméon. Quand vous arrêtez quelqu'un et que le membre de sa famille, les membres de sa structure ne sont pas en contact avec lui, ne connaît pas là où il est. Donc, c'est déjà un enlèvement.
Tous nos efforts pour avoir les autorités du territoire de Louboudi à ce sujet n'ont pas abouti. Parlons à présent de ce trafic routier qui est coupé dans le Nord Kivu depuis 2 jours entre le territoire de Masisi et celui de Walikale. Sur le tronçon Kalembe-Pinga, un pont s'est effondré au niveau de Minjenje sous la rivière Mueso, bloquant la circulation de part et d'autre. Ce pont en métal d'une 20 mètres a été emporté par les érosions qui ont touché les 2 rives sous la pression des eaux des fortes pluies mercredi et hier jeudi sur cette zone, affirme un notable de Masisi. Du coup, les véhicules transportant des diverses marchandises en provenance de Goma pour Pinga, passant par Kichanga, ont dû rebroucher chemin vers Kalembe centre hier jeudi. Les autorités locales s'activent avec des initiatives locales afin de trouver une solution palliative en attendant la solution durable des autorités provinciales, dit-il. Jean Bosco Sebishimbo alerte les autorités provinciales nationales et leurs partenaires pour une intervention rapide. Il parle ici de l'importance de ce pont sur le plan économique dans cette région.
C'est un coin très important, un coin qui achemine beaucoup d'histoires dans la ville de Goma, en passant par Kalembe, Kashuga, Mueso, Kichanga. L'huile de palme vient de là. La farine de maïs en grande quantité provient de ce coin-là, de Pinga. Il y a les haricots, il y a les planches qui viennent en quantité importante, il y a la braise et consorts. Vous comprenez que tous ces échanges commerciaux connaîtront bien entendu une interruption parce que ce pont était un pont important du point de vue de ces échanges-là commerciaux. Voilà pourquoi nous continuons aussi à alerter le niveau national. Vous savez, nous avons toujours décrié le comportement du niveau national qui n'alloue pas assez de moyens à la province, alors que la province conduit la politique de proximité. Et donc, nous aurions souhaité qu'une intervention soit rapidement cheminer.
À ce sujet, le conseil provincial du gouverneur en charge des infrastructures assure les usagers que les travaux vont être bientôt lancés pour la reprise rapide du trafic. Le pont Minjenje sous la rivière Mueso date de l'époque coloniale. Il a été construit il y a environ une cinquantaine d'années d'après un cadre de base local. Santé, le centre médical Diama a lancé hier jeudi 1er septembre la deuxième campagne gratuite des dépistages et traitements des cardiopathies congénitales ou maladies cardiaques chez les enfants. La première phase de cette campagne se déroule dans la commune de Limete à Kinshasa et va durer 3 jours. Elle vise à dépister la maladie et former en même temps des médecins pédiatres non seulement dans la prise en charge de cette maladie mais aussi à l'éradiquer. Selon le directeur général du centre médical Diamant, plus de 39 000 enfants naissent avec une malformation cardiaque et si cette maladie n'est pas prise en charge à temps, près de 4 000 d'entre eux peuvent en mourir. Karim Tajdine a été joint par Innocent Fazili.
Et justement faire cet appel aux gens qui ont un grand cœur pour leur demander de nous aider dans cette lutte contre cette maladie qui affecte plus de 39 000 enfants par année. On a besoin de support pour pouvoir continuer à faire ces chirurgies et pour que la fondation du Centre médical Diamant puisse continuer de prendre en charge les coûts de ces chirurgies qui ailleurs en Europe coûteraient 80 000 euros, aux États-Unis 200 000 dollars. On espère trouver plusieurs cas qui vont nécessiter des chirurgies cardiaques. On espère que 100% de ces patients, de ces enfants qui allaient autrement mourir, ne vont maintenant plus mourir.
Quel est le message à toute la population?
Nous voulons passer le message que si vous suspectez génital, donc une maladie cardiaque, n'hésitez pas à contacter le Centre médical Diamant pour enregistrer votre enfant pour un dépistage.
Culture, le pianiste congolais Tyson Meya et son homologue Mathias Nilsson ont livré un concert le 1er septembre à la résidence de l'ambassadeur suédois dans la commune de la Gombe. C'était lors de la deuxième session musicale initiée par l'ambassadeur suédois Henrik Rasbran qui a pour objectif de faciliter les échanges musicaux et culturels entre les artistes congolais et suédois. Kelly Yoka pour plus de détails.
La virtuosité était au rendez-vous lors de la deuxième édition de la session musicale. À la résidence de l'ambassadeur suédois à Kinshasa, artistes et passionnés de la bonne musique étaient réunis autour de deux illustres pianistes, le congolais Tyson Meya et le suédois Mathias Nilsson. 10 registres ont été exploités par les deux artistes, entre autres Bokoko et Fifi. Henri Krasbrand, ambassadeur de la Suède et initiateur de ce projet, nous explique le choix porté par ces deux artistes.
Et bon, là, c'est parce qu'on a voulu alors vraiment leur donner la possibilité de jouer, de montrer alors un peu leurs talents artistiques. Mais on leur a aussi donné la liberté de s'organiser un peu comme ils voulaient. Mais on leur a aussi donné la liberté de jouer en solo, de jouer ensemble.
La prestation de ce jeudi a été appréciée par l'artiste Tyson Meya.
Donc ces échanges, c'est quelque chose d'important et pour moi, étant qu'artiste, je suis vraiment très content de participer.
Rappelons que les pianistes rivaliseront deux talents lors de la 6e édition du festival King Jazz qui a déjà ouvert ses portes ce vendredi 2 septembre.
Actualité internationale.
Sur l'île de Lampedusa, en Italie, un centre d'accueil pour migrants dépasse largement ses capacités d'hébergement. Depuis cette semaine, l'établissement destiné à loger environ 350 personnes prend en charge près de 1400 personnes, plus de 700 migrants étant arrivés sur l'île lundi. La petite île de Lampedusa est une des étapes du long périple vers l'Europe qu'entament certains migrants et demandeurs d'asile qui arrivent soit de Tunisie, soit qui ont été secourus par les autorités italiennes. Elle est située à 144 km de la Tunisie et à 293 km de la Libye. L'ONG SOS Méditerranée a indiqué que son navire, l'Océan Viking, qui navigue en Méditerranée centrale, a secouru 466 migrants entre le 25 et le 26 août au cours des 10 opérations différentes. La justice sud-africaine a confirmé jeudi l'interdiction pour le géant des hydrocarbures Shell de mener une exploration sismique au large de la touristique Wild Coast, réaffirmant une victoire inédite des locaux et écologistes qui craignaient des graves perturbations pour la faune marine. Le projet avait déjà été suspendu par la justice en décembre avec effet immédiat et Shell avait renvoyé son bateau de recherche hors des eaux sud-africaines en janvier. La décision accordant un droit d'exploration pour la recherche des pétroles et de gaz dans les zones d'exploration du Transkei et d'Algoa est révisée et annulée, a déclaré jeudi le tribunal de Makanda dans la province de l'Eastern Cape dans une décision.
L'invité.
Le ministre des Sports Serge Chembo Kondé se dit déterminé à imprimer un nouveau visage dans le domaine des sports en RDC. D'où l'invitation des experts internationaux pour participer aux travaux des états généraux des sports qui se tiennent à Kisantu au Congo central. Parmi ces experts, Christophe Boucher, un Français d'une cinquantaine d'années, ancien journaliste et ancien président de l'Olympique de Marseille. Il a pour mission d'accompagner le gouvernement congolais pour la mise en application des résolutions qui sortiront de ses travaux. Christophe Boucher répond aux questions de Enoch Matondo.
Bonjour Monsieur Christophe Boucher, est-ce que vous pouvez vous présenter en long et en large?
Alors, je suis Christophe Boucher, j'ai été 20 ans journaliste, j'ai été président de l'Olympique de Marseille pendant 3 saisons, de 2002 à 2005. Ensuite j'ai été 10 ans dans le marketing sportif, j'ai dirigé une entreprise qui s'appelle Sport 5, qui est notamment l'entreprise qui détenait tous les droits marketing, sponsoring et télévisuel de la Confédération africaine de football. Puis après, j'ai fait 5 ans dans une autre société qui s'appelle Infront, qui était en charge du développement pour cette société du continent africain. Puis ensuite, j'ai fait de la politique en France et j'étais maire de Tours, qui est une commune de 300 000 habitants. Et donc, je suis là à la demande du gouvernement pour essayer d'accompagner. J'aime pas beaucoup le mot d'expert, mais essayer d'accompagner, d'accoucher des états généraux afin que ce soit des états généraux qui puissent déboucher, qui puissent s'appliquer, se dupliquer intelligemment. Je crois que tout le monde ici est un peu vexé, blessé que les états généraux de 2008 n'aient débouché sur rien. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir d'avoir un compte-rendu, d'avoir des décisions, des résolutions qui permettent au chef de l'État de prendre rapidement, très rapidement, quelques décisions majeures pour l'avenir du sport en RD Congo.
Votre accompagnement se fera comment après les travaux des états généraux?
Alors, l'objectif, effectivement, vous avez raison de souligner que je ne suis pas là. Je suis là pour les états généraux, évidemment, mais je suis là aussi pour, dans la durée, qu'il y ait une vraie mise en application. Donc l'objectif, c'est de se donner, des lignes de force, mais se donner aussi un calendrier et puis des outils d'évaluation pour tout périodiquement. Je ne sais pas à moi de dire combien de temps, mais périodiquement, peut-être tous les ans, de se dire on avait prévu ça, ça et ça. Est-ce qu'on a respecté? Voilà. De façon à ce que les étapes soient respectées, parce qu'on ne va pas faire la révolution du sport au Congo, en RD, en 6 mois. C'est un travail de coureur de fond. C'est un travail de marathonien. Il faut de nombreuses années, mais si on veut que ça réussisse, c'est comme le marathon. Il faut finir au sprint, mais il faut quand même courir très vite dès le départ. Donc il faut pas oublier de courir vite dès le départ. Donc il faut qu'on ait des jalons, il faut qu'on ait des étapes qui soient bien décidées en amont. Et ces étapes, il faut une évaluation régulière pour savoir si elles seront respectées et si ça avance.
Une dernière question. Nous savons qu'en Afrique, il y a une maladie entre griffes, bien sûr, de ne pas respecter en tout cas les résolutions. Il y a aussi un problème des moyens financiers. On vous dira après que oui, on a décidé ça, mais il n'y a pas de moyens financiers ou carrément les moyens sortent, mais il y a des petits malins qui les détournent. Est-ce que cet aspect de choses ne vous fait-il pas peur?
Vous savez, il est de même nature partout. Il est de même nature, il n'est pas de même force partout. Comme ça, à vue de nez, j'ai l'impression que le chef de l'État a déjà fait des efforts sur les sujets dont vous parlez, que le budget de l'État s'est renforcé. J'ai l'impression aussi que de l'étranger, les gens voient que y a des choses positives en route. Oh, de toute façon, il faut le faire, il faut l'essayer. Si on part battu, on ne va jamais rien faire. Je suis un immense optimiste. Donc je crois que les choses sont faites. En tous les cas, la prise de conscience, elle est partagée et elle est la même par tous les acteurs. Ça, c'est déjà un point positif, parce qu'on pourrait... Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus de virulence et de bataille entre les uns, entre les uns et les autres, les chefs de division, les ministres provinciaux, les représentants du mouvement sportif. Non, il y a quand même un consensus autour déjà, à la fois de l'État, qui est mauvais, hein, de l'État du sport au RD Congo, qui est pas bon, qui est vraiment, enfin, qui est même mauvais, mais il y a aussi un accord sur les choses qui peuvent être mises en place dans le temps, pour évoluer. Donc je pense que je suis confiant, je suis vraiment confiant. Alors je sais bien qu'ici on a été confiant, ça fait 30 ans qu'on est confiant. Je suis pas une oie blanche, je suis pas un perdreau de l'année, je suis pas tombé de l'arbre, mais y a quand même pas mal d'indices, je trouve, de confiance. Est-ce qu'ils seront suffisants? On s'en reparlera dans un an ou dans deux ans.
Ok, merci beaucoup. Je vous remercie, Monsieur Christophe Boucher.
Mesdames et messieurs, voilà comment se referme cette édition de journal sur Radio Okapi. Billy Van Lutumba était à la présentation. Nous vous disons merci pour votre attention soutenue.